Chapitre 15. Oshima monte dans sa voiture de sport, allume les phares. Quand il appuie sur l'accélérateur et démarre, de petits cailloux sont projetés sous le châssis. La voiture recule, fait demi-tour, capot pointé vers le chemin du retour. Oshima lève la main pour me dire au revoir. Je lui réponds de même. Les feux arrière disparaissent dans les ténèbres, le bruit du moteur s'éloigne, puis disparaît complètement, et le silence emplit de nouveau la forêt. Je rentre dans la cabane, cadenasse la porte. Maintenant que je suis seul, le silence m'enveloppe comme s'il n'avait attendu que ça. L'air nocturne est si froid qu'on ne se croirait jamais au début de l'été, mais il est trop tard pour faire du feu. Pour ce soir, je n'ai qu'à me pelotonner dans mon sac de couchage et dormir. Le manque de sommeil m'embrume la tête, et j'ai des courbatures partout à cause de ce long trajet en voiture. Je tourne la molette de la lampe à pétrole pour diminuer la flamme. Les ombres qui occupent les coins de la chambre s'obscurcissent. Je n'ai pas le courage de me mettre en pyjama et me glisse dans le sac de couchage avec mon jean et ma parka. Je ferme les yeux. J'essaie de m'endormir, mais je n'y arrive pas. Mon corps cherche le sommeil, mais ma conscience reste en alerte. De temps à autre, le cri aigu d'un oiseau de nuit déchire le silence. J'entends aussi de nombreux autres bruits dont j'ignore la nature. Quelque chose piétine les feuilles mortes. Quelque chose frôle lourdement des branches. Une respiration profonde. Par intermittence, les craquements lugubres des marches du porche. Ces sons paraissent tout proches de la cabane, comme si j'étais encerclé par une armée de créatures invisibles peuplant les ténèbres. J'ai l'impression que quelqu'un me surveille. Un regard invisible pèse douloureusement sur moi. Les battements de mon cœur rendent un son creux. J'entr'ouvre les yeux. Toujours au fond de mon sac de couchage, fais du regard le tour de la pièce éclairée par la faible lueur de la lampe, vérifie à plusieurs reprises qu'il n'y a personne. La porte d'entrée est fermée par un gros cadenas. Les épais rideaux sont bien tirés sur les fenêtres. « Allez, ça va, » me dis-je. « Tu es seul dans cette cabane. Personne ne t'épie par la fenêtre. » Cependant, cette sensation d'être observé ne me quitte pas. J'ai du mal à respirer par moments et la soif me tourmente. J'aimerais bien boire de l'eau, mais si je le fais, il faudra que je vide ma vessie plus tard. Et je n'ai aucune envie de sortir de la cabane en pleine nuit. Je tiendrai bien jusqu'au matin, me dis-je en secouant la tête, roulé en boule au fond de mon sac de couchage.
Allons bon. Te voilà terrorisé par le silence et les ténèbres. Tu meurs de frayeur comme un petit gamin peureux. C'est ça, ta véritable nature,
dit le garçon nommé Corbeau, l'air stupéfait.
J'ai toujours cru que tu étais un dur, pourtant. Mais on dirait que je me suis trompé. Tu m'as l'air au bord des larmes. Ma parole, si ça continue, avant le matin, tu auras pissé au lit.
Ignorant ces railleries, je ferme les yeux. Remonte la fermeture de mon sac jusqu'au ras de mon nez et chasse toute pensée de mon esprit. Rien ne me fera ouvrir les yeux, ni la chouette qui ulule dans la nuit, ni le bruit sourd d'une chute que j'entends au loin, ni cette impression que quelque chose se déplace dans la pièce. Oshima a dormi ici tout seul plusieurs jours, au même âge que moi. Il a sûrement connu la peur que je ressens en ce moment. C'est pour cela qu'il m'a dit qu'il y avait des solitudes de différentes sortes. Il savait sans doute ce que j'allais éprouver ici la nuit venue. Il l'avait lui-même ressenti autrefois. Cette pensée m'apaise un peu. Par-delà le temps, j'effleure du doigt cette ombre du passé, y superpose mon présent. Je respire profondément. Puis, sans m'en rendre compte, je m'endors. Je me réveille à 6 heures du matin passé, sous une cascade de chants d'oiseaux. Les petites créatures ailées volent inlassablement de branche en branche, s'appellent les unes les autres. leurs piaillements énergiques n'ont pas l'écho lourd et sinistre des bruits de la nuit. Je sors de mon sac de couchage, ouvre les rideaux, vérifie que pas un seul morceau de ténèbres ne persiste autour de la cabane. Tout étincelle dans l'éclat doré qui vient de naître. Je frotte une allumette, fais chauffer de l'eau minérale et bois une tasse de camomille en sachet. Je sors un paquet de crackers du sac à provisions, en mange quelques-uns avec du fromage. Ensuite, je me brosse les dents et me lave la figure au-dessus de l'évier. J'enfile mon coupe-vent et sors de la cabane. Le soleil matinal traverse les hautes futaies et vient éclairer la clairière. Entre ces colonnes de lumière flottent des brumes pareilles à des âmes à peine nées. Je prends une profonde inspiration. L'air pur me revivifie. Je m'assieds sur une marche du perron, regarde les oiseaux voleter entre les arbres, tends l'oreille à leur chant. La plupart d'entre eux se déplacent en couple, vérifiant constamment où se trouvent leurs compagnons, échangeant des appels. Grâce au bruit, je repère facilement le ruisseau, dans le bois, non loin de la cabane. À un endroit, une sorte de mare se forme entre les rochers. L'eau y fait halte un moment, tourbillonne en spirale complexe avant de reprendre son cours, dévalant la montagne. Elle est belle et pure. J'en puise un peu. Elle est délicieusement fraîche. Je plonge mes mains dans le courant. De retour à la cabane, je me prépare des œufs au jambon dans une poêle, rôtis du pain sur une grille, puis je fais chauffer du lait dans une casserole à long manche. Mon petit déjeuner terminé, je transporte une chaise sur le porche et m'assieds, les pieds calés sur la rampe. J'ai décidé de passer ma matinée à lire tranquillement. La bibliothèque d'Oshima-san contient des centaines d'ouvrages. Il n'y a que quelques œuvres de fiction, des classiques pour la plupart. Le reste est constitué de livres de philosophie, sociologie, psychologie, géographie, sciences naturelles, économie, etc. Oshima-san m'a dit qu'il n'était pas resté longtemps à l'école et qu'il avait étudié en autodidacte. Il a dû le faire ici, sans doute. Tous ces livres semblent couvrir des domaines de connaissances si vastes, presque illimités. Je prends un livre sur le procès de Karl Adolf Eichmann. Je me rappelle vaguement le nom de ce criminel de guerre nazi, mais ne m'y intéresse pas particulièrement. J'ai choisi ce livre au hasard. Il a attiré mon regard. J'apprends en le lisant que ce lieutenant-colonel SS aux lunettes à monture de métal et aux cheveux dégarnis était un homme à l'esprit pratique. Peu après le début de la guerre, le haut commandement nazi le charge de mettre en œuvre la solution finale, le massacre des Juifs. Et il élabore alors un projet concret, permettant de mener ce programme le plus efficacement possible. Le problème moral que pose pareille mission ne semble même pas effleurer sa conscience. La seule question qui le préoccupe, c'est de savoir comment il peut éliminer à moindre frais un maximum de personnes en un minimum de temps. D'après ses calculs, l'Europe comptait à l'époque 10 millions de Juifs. Combien de rames de wagons de marchandises fallait-il préparer? Combien de Juifs fallait-il entasser dans chacun? Quel pourcentage d'entre eux mourraient de mort naturelle au cours du transport? Comment accomplir cette tâche avec le moins de personnel possible? Comment se débarrasser des cadavres à peu de frais? Les brûler? Les enterrer? Dissoudre leur corps dans l'acide? Eichmann fait des calculs acharnés dans son bureau. Son plan est mis à exécution et se déroule à peu près conformément à ses prévisions. Avant la fin de la guerre, 6 millions de Juifs, un peu plus de la moitié de l'objectif qu'il s'était fixé, seront éliminés. Eichmann ne se sentira jamais coupable. Assis derrière des vitres pare-balles, sur le banc des accusés, à la cour de justice de Jérusalem, il semble se demander pourquoi il fait l'objet d'un tel procès, pourquoi le monde entier a l'œil fixé sur lui. « J'étais un simple technicien, » dira-t-il, « et j'avais trouvé la réponse la plus adéquate à la question qu'on m'avait demandé de traiter. C'est exactement ce que font les fonctionnaires consciencieux du monde entier. Pourquoi suis-je le seul à être accusé ainsi ?» tout en écoutant les chants d'oiseaux dans la forêt, par ce matin paisible, je lis l'histoire de cet homme plein de sens pratique. Sur une page blanche, à la fin du livre, Oshima a laissé une note au crayon. Je reconnais son écriture particulière. Tout est question d'imagination. La responsabilité commence avec le pouvoir de l'imagination. Yeats disait « In dreams begin responsibilities ». C'est parfaitement exact. À l'inverse, la responsabilité ne peut naître en l'absence d'imagination, comme nous pouvons le constater avec Eichmann. J'imagine Oshima, assis sur cette même chaise, un crayon bien taillé à la main, en train de noter ses remarques. La responsabilité commence dans les rêves. Cette phrase frappe mon esprit. Je referme le livre, réfléchis à ma propre responsabilité. Comment faire autrement? Mon t-shirt blanc était plein de sang et je l'ai lavé avec ces mains-là. Il y avait tellement de sang que le lavabo est devenu tout rouge. Il faudra sans doute que j'assume ma responsabilité dans cette effusion de sang. Je m'imagine au procès. Des gens m'ont accusé et poursuivi en justice. Ils me dévisagent avec colère, me montrent du doigt. J'objecte qu'on ne peut être tenu responsable d'un acte qu'on ne se souvient pas d'avoir commis. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais ils me rétorquent. Peu importe qui était le maître de ce rêve à l'origine, puisque tu l'as partagé. Tu es responsable de ce que tu as rêvé, car ce rêve s'est insinué en toi par les sombres corridors de ton âme. Comme le lieutenant-colonel Adolf Eichmann qui s'est laissé entraîner de gré ou de force dans le rêve mégalomane et tordu de Hitler. Je pose le livre, puis me lève et m'étire. J'ai lu assez longtemps. Il faut que je bouge. Je prends deux réservoirs en plastique et vais au ruisseau puiser de l'eau que je transporte jusqu'à la cabane, puis transvase dans le seau. Au bout de 5 allers et retours, le seau est à peu près plein. Je vais chercher une brassée de bûches dans l'abri derrière la cabane et les entasse près du poêle. Je trouve une vieille corde à linge dans un coin du porche. Je sors le linge propre encore humide de mon sac, le secoue un peu pour le déplisser et le mets à sécher. Puis j'étale toutes mes affaires sur le lit pour les aérer. Je m'assieds devant le bureau afin de rédiger mon journal. Avec un feutre à pointe fine, j'écris sur mon cahier, en petits caractères, tout ce qui m'est arrivé ces jours derniers. Je dois tout noter, le plus minutieusement possible, tant que mes souvenirs sont intacts. Je fouille ma mémoire pour raconter comment j'ai perdu conscience sans m'en rendre compte et me suis réveillé allongé dans un bois derrière un sanctuaire. Les ténèbres, mon t-shirt plein de sang. J'ai téléphoné à Sakura, suis allé chez elle, lui ai demandé de m'héberger. Ce que je lui ai raconté, ce qu'elle m'a fait. Elle a dit en riant, « Je ne comprends pas. Tu peux très bien fantasmer sur moi sans rien me dire et sans me demander la permission. Je ne peux pas savoir à quoi tu penses. » Mais elle avait tort. Ce que j'imagine a peut-être beaucoup d'importance en ce monde.